Stéphane, et comment organiser la rencontre, le dialogue entre toutes ces formes de savoir, de connaissances produites à l'université de Poitiers, mais pas seulement, à l'espace Mendès France, dans des institutions et de manière très informelle. Et nous avions commencé par une intervention de Pierre Vels, qui s'emploie depuis maintenant quelques années à essayer de créer un cluster dans le sud de Paris, le cluster de Paris-Saclay, avec l'idée de mettre en musique tous les centres de recherche et de développement, les universités, les grandes écoles présentes sur son territoire. Et on s'était amusé à voir dans quelle mesure on pouvait créer l'équivalent sur le territoire poitevin. Avec Roger Su, on est rentré dans la boîte noire de ces notions de société et d'économie de la connaissance dont on nous rabat les oreilles. Et il nous a montré que ces notions-là ne prenaient sens que si on y intégrait pleinement la société civile et que si on évitait d'en faire des notions qui viennent du haut, des institutions, aussi importantes que soient ces institutions. Et puis, souvenez-vous, il y a pratiquement un mois et demi, on avait à titre exceptionnel croisé les regards de personnes d'horizons très différents, mais le courant était bien passé entre eux. Marc Asfeld, un anthropologue qui investit les banlieues pour essayer de voir quels sont les types de cultures qui émergent, qui sont produites, les savoirs qui sont produits dans les banlieues. Et nous avions organisé un échange, un dialogue entre lui et Claire Hébert Suffren, qui, il y a de ça 40 ans, avait créé avec son mari, présent ce soir-là également, les fameux réseaux d'échanges réciproques de savoir. Et la soirée était une forme de réseau d'échanges réciproques de savoir parce que le courant était encore une fois bien passé avec eux. Et donc quand on s'est... On a réfléchi, il y a quand même plus d'un an de ça, à la programmation, n'est-ce pas, Anne? On s'est dit, il va bien falloir traiter, affronter la question du numérique. On ne peut plus parler de connaissances ou de quoi que ce soit sans solliciter un spécialiste du numérique. Je dois à la vérité de dire que personnellement, j'étais un peu sceptique, parce que surtout lorsque on m'a annoncé l'intervention d'un certain Serge Ravet, celui-là même que vous allez écouter ce soir, que je ne connaissais pas, mais que vous connaissez sans doute parce que vous intervenez, il s'en expliquera d'ailleurs beaucoup sur ce territoire, il travaille avec l'espace Mendès France, et il venait avec la notion de e-learning. Alors moi j'y voyais un coup de marketing, etc. Et non, il y introduit vraiment, c'est le point de départ d'une réflexion extrêmement intéressante où il s'emploie à montrer comment le numérique peut nous aider à faire de nous non plus seulement des spectateurs, comme il s'est permis de le rajouter dans le titre de sa conférence, mais des acteurs, et de faire de nous des contributeurs actifs à la production de savoir. J'en dis pas plus, mais je préciserai simplement, juste pour montrer que le numérique c'est bien, mais il faut pas se fier uniquement au numérique parce qu'on peut tomber sur des erreurs ou des informations incomplètes. Moi j'en étais resté au fait que Serge Ravet était le directeur de European Institute of E-Learning. C'était vrai. Eiffel. Ah, bravo. Et oui, très bien. Il faut rappeler l'acronyme parce que vous êtes l'arrière-petit-fils du dit Eiffel. Hein, non, il n'y a aucun lien. Et en fait, c'était vrai il y a quelques années, mais en fait, vous avez depuis créé d'autres instances. Et je vous laisse le soin de les présenter, parce que notamment AdPios, dont je viens d'apprendre qu'en fait, elle a été créée en lien avec un certain Didier de l'espace Mendès France. Mais je vous laisse le soin de nous en dire un peu plus. Et dans la foulée, de nous faire explorer le monde de la connaissance à l'heure du numérique, le tout en 40 fois 60 secondes. Pour ensuite permettre un échange avec la salle. Si ça vous va, Serge Ravet. Merci d'être venu.
Merci beaucoup pour cette introduction. Si je suis ici, c'est grâce à Didier Moreau. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. On avait travaillé ensemble sur les industries de la connaissance. Et donc, ça fait longtemps qu'on a entamé cette réflexion autour des technologies. Donc, ce que je vais vous donner ce soir, c'est un point de vue, c'est pas une vérité, c'est ce que je retire d'une expérience. Et donc j'ai 40 minutes, mais vous êtes libre d'intervenir pendant ces 40 minutes. Vous pouvez pas seulement poser une question, mais vous pouvez réagir si vous pensez que... Oui. Situer le contexte dans lequel je veux parler, ça fait depuis le début qu'on ça c'est quelque chose, une réflexion qu'on avait entamée avec Didier à l'époque des instruits de la connaissance, c'est quand on parlait des instruits de la connaissance et d'apprendre, on parlait comment est-ce qu'avec l'e-learning on allait aider les gens à apprendre. Et moi ce que j'ai toujours défendu, c'est l'idée que si on parle d'apprentissage, il faut le situer dans différents contextes. Il y a l'apprenant individuel, mais on parlait aussi d'organisation apprenante, de territoire apprenant, de communauté apprenante. Et qu'est-ce que ça veut dire apprendre dans ces différents contextes? Et particulièrement en France, on faisait un contresens. Hein, parce que quand on parlait de learning territory en anglais, en France, on parlait de territoire formateur, de région formatrice. C'est-à-dire que les régions avaient mis en place, par exemple, des portails de la formation à distance. C'était le gros truc, la FAD, la formation à distance. Mais ça n'a rien à voir. Un territoire apprenant, ce n'est pas un territoire qui forme. Une organisation apprenante, ce n'est pas une organisation qui forme. C'est une organisation qui apprend, comme un corps qui apprend, qui se développe, qui grandit. La formation peut en faire partie, mais c'est, à mon avis, même un élément presque mineur par rapport à l'apprentissage. Donc, pour une organisation, ça conduit à l'innovation, au niveau d'une communauté, l'inclusion sociale. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé notre réflexion. Alors, on m'a demandé de donner une définition du numérique, parce que, on en parle, donc essayons de donner une définition simple. Donc, le numérique, c'est quoi? C'est simplement des réseaux, des données, des calculateurs, hein, les ordinateurs. C'est ça. Mais ce n'est pas que ça, le numérique. Je suis allé trop vite, pardon. C'est aussi des territoires, des identités et des réseaux sociaux. Et je vais revenir... L'identité, c'est un élément central de notre réflexion aujourd'hui qu'on a entamé avec l'espace Mendès France. C'est pour ça qu'on a créé Adepios. Adepios voulant dire... Alors, c'est un acronyme absolument horrible. Ils ont dû boire quelques bouteilles de Beaujolais avant de choisir le titre, mais ça veut dire association de préfiguration de Internet of Subjects. Alors je reviendrai sur l'idée de Internet of Subjects, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un sujet de l'Internet. Alors je vais commencer par une première lecture. Je vous rassure tout de suite, il y aura très très peu de textes, mais je vais vous lire celui-ci, parce que c'est quand même un texte qui a été écrit en 94 et qui situe bien le contexte. Il dit « Tandis que l'imprimerie annonça l'extinction des institutions monacales et la naissance de l'université moderne, le cyberspace pourrait dissoudre les campus actuels faits de briques et de mortiers dans une culture de la connaissance décentralisée, un réseau de sites virtuels, des champs intellectuels qui rendra obsolètes les anciens bâtiments couverts de lierre. » C'est traduit d'anglais, en américain c'était Ivy League, hein, c'est de... De même que les frontières institutionnelles et politiques, créant une chose similaire à la vision qu'avait H.G. Wells d'un cerveau mondial. Je vous engage si vous cherchez sur Internet The Brain Organization of the World, on trouve l'université à Auckland qui a numérisé le texte, il est accessible sur Internet. Et voilà, l'idée qu'avait Wells quand même en 37, hein, c'est quand même ancien, et la technologie à l'époque c'était quoi? C'était le microfilm. C'était à ça que se référait Wells. Mais dans notre contexte, on ne pense pas au microfilm, on pense évidemment à l'ordinateur et au réseau. Il dit, voilà, une encyclopédie mondiale ne se présente plus à l'imagination moderne comme une rangée de volumes imprimés et publiés une fois pour toutes, mais comme une sorte de chambre de compensation pour l'esprit, un dépôt où les connaissances et les idées sont collectées, triées, résumées, digérées, clarifiées et comparées. C'est Wikipédia, quoi. En tout cas, pour moi, c'est Wikipédia, vous pouvez avoir une autre opinion, mais voilà ce qu'avait décrit Wells en 1937. Donc, à quoi assiste-t-on? On assiste à une série de ruptures. Alors là, c'est du noir et blanc, c'est très, très manichéen, mais bon, il faudra introduire plusieurs nuances de gris. Je ne fais pas référence à un ouvrage particulier. Donc déjà, on est passé des mass médias aux médias en réseau. Mark Eisenstadt de l'Open University parle de knowledge media, des médias de la connaissance. Mais c'est exactement ce qui est... Donc on a des... Les mass médias, c'était quoi? On avait un centre qui distribuait des contenus, la télévision, la radio, la presse, l'imprimerie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des sites contributifs. Ce sont les étudiants, par exemple, dans les universités, qui créent des ressources pédagogiques. Donc l'étudiant n'est pas simplement un consommateur de ressources, de polycopiés qu'on lui distribue, mais participe activement à la création de connaissances. C'est vrai que moi, l'image que j'avais de l'université souvent, et de l'école encore plus, c'est un petit peu les bas de DAF. Qu'est-ce qu'on faisait dans les bases d'Afrique quand on envoyait des soldats dans les camps disciplinaires? On les faisait déplacer une dune d'un endroit à l'autre, et puis le lendemain, ils déplaçaient une dune d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les étudiants comme des créateurs de connaissances, on les utilise simplement comme des vaisseaux à remplir. Je vous signale qu'il y a des expériences tout à fait intéressantes. Il y a des gamins entre 8 et 12 ans qui ont publié un article scientifique dans une peer-reviewed scientifique au Royaume-Uni sur le mouvement des abeilles. Donc on peut développer des contributions scientifiques dès l'âge de 8-10 ans. Pas besoin d'attendre de rentrer dans l'université pour publier des articles qui sont de valeur scientifique. Il y a une approche scientifique. Pourquoi des gamins de 8 ou 12 ans ne seraient pas capables de produire quelque chose qui a une valeur scientifique? Donc on rentre dans une société beaucoup plus de la contribution. On passe d'un monde où on est des consommateurs à coproducteurs, de lecteurs du web à architectes du web. Alors j'insiste sur architectes du web. Là j'étais à une conférence récemment organisée par la fondation Mozilla où le slogan c'était un web où on écrit pour une société qu'on écrit. Alors, traduit en français, ça n'a rien du tout, parce qu'en anglais, c'est write the web to write society. C'est-à-dire, c'est vraiment éduquer les gens à construire l'Internet, pas simplement avec du texte, mais y compris à travers les programmes, y compris les journalistes. Comment est-ce que les journalistes peuvent exploiter les bases de données pour créer des informations, par exemple, sur la pauvreté dans le monde? Il y a des tas de bases de données aujourd'hui qui existent. Il y a une technologie de requête qui s'appelle Sparkle, qui permet d'interroger des bases de données structurées et de faire apparaître de l'information sous forme de cartographie avec Google Maps. Donc on a aujourd'hui des outils formidables pour raconter des histoires à partir de données. Et c'est ça c'est un point aussi extrêmement important, c'est toute la question des données. Donc on passe... Et ça, c'est quelque chose qu'on partage avec Didier, c'est l'idée de... On ne participe pas simplement, mais on contribue. Alors Didier, ce que j'aime bien, c'est quand il dit c'est pas simplement la démocratie participative, c'est la démocratie contributive. Et je pense qu'il y a une grosse différence entre la participation et la contribution. Dans la contribution, on produit quelque chose, on coproduit. On n'est pas simplement en train de poser une question ou de répondre à un questionnaire à choix multiples. Qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse dans les 3 années qui suivent, ou simplement un bulletin de vote. On est dans une société solidaire et de coproduction. Aussi, ce qui caractérisait le monde avant, c'est la stabilité. Là, c'est l'innovation permanente. Et dans le monde des technologies, on dit que nous sommes toujours en version bêta. Voilà. C'est toujours la version bêta. Toujours un nouveau logiciel qui sort, qui évolue. Et c'est vrai que quand je regarde, par exemple, le monde académique ou le monde scolaire, les logiciels qu'on va retrouver dans le monde académique ou scolaire ont des fois 10 ans de retard par rapport à ce qu'on trouve dans le monde réel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un service informatique. Le service informatique, c'est vraiment la chose qu'il faut détruire à tout prix. C'est la pire des plaies qu'on peut trouver dans une organisation. Parce que si on peut freiner l'innovation, c'est bien le service informatique, à quelques exceptions près. Hein, mais par défaut, un service informatique, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là pour reproduire ce qu'ils faisaient avant, et ils ont vraiment peur de l'innovation, ils ont peur de ne pas contrôler. Mais il n'y a pas que les informaticiens, parce que j'avais discuté avec les gens du réseau des échanges réciproques de savoir. On pourrait imaginer que l'idée de libérer les énergies, d'aider les gens à présenter leurs compétences sur le web, ça devrait les intéresser, mais non. Il y a des gens dans les réseaux des échanges réciproques de savoir qui disaient « Non, nous on veut rester les intermédiaires, on veut être les personnes qui vont mettre en relation les uns avec les autres, alors qu'avec l'Internet, aujourd'hui, on est capable de mettre en avant ces compétences, mais j'en reparlerai après. » Aussi, d'un point de vue technologie, mais ça reflète aussi les organisations, c'est que quand on parlait de systèmes d'information avant, on voulait intégrer les systèmes d'information. C'est le grand truc. Comment est-ce qu'on va... Alors qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut simplement les agréger. Hein, on peut prendre des morceaux d'information à droite et à gauche. Il y a d'ailleurs Mozilla qui vient de sortir un logiciel qui s'appelle Popcorn, qui permet de créer des vidéos en temps réel, en récupérant des informations en temps réel sur le web. Donc, pas besoin de stocker toute l'information dans un endroit, on prend des bouts à droite et à gauche. Bon, vous connaissez sans doute les flux RSS ou Atom, on peut s'abonner à... on peut créer plein de choses aujourd'hui par l'agrégation, et l'avantage de l'agrégation par rapport à l'intégration, c'est qu'il y a besoin de savoir très peu de choses de la façon dont les systèmes fonctionnent à l'intérieur. Et donc c'est beaucoup plus facile de changer de système si on le souhaite à un moment donné. Alors aussi, le monde dans lequel on rentre aujourd'hui, c'est un monde de l'ouverture. Et je vais insister là-dessus après. Tout ce qui est, alors en anglais, c'est open, mais donc tout ce qui est open data, open web, et l'obfuscation. Mais ça, c'est ce qu'on vit en permanence, quoi. Quand vous avez un contrat à Orange, on vous fait croire que vous avez le choix, mais bon, avant c'était simple, on prenait un abonnement au téléphone, on savait combien coûtait le téléphone. Maintenant, il faut choisir l'option. On nous fait croire qu'on a un choix, mais c'est simplement pour éviter de nous vraiment révéler la réalité des tarifs qui sont pratiqués par les opérateurs. Donc il y a des tentatives pour, face à l'ouverture naturelle que permet l'Internet, de créer des systèmes pour cacher la réalité de la simplicité. Et puis aussi, on rentre dans un monde dans lequel les infrastructures prennent le dessus par rapport aux silos. Avant, on avait des silos d'informations, on essayait de les faire communiquer entre eux. Là, le projet sur lequel je travaille, qui s'appelle Open Badge, j'en reparlerai par la suite, c'est l'idée, comment est-ce qu'on peut créer une infrastructure sur laquelle on va pouvoir faire circuler des données sans aucune contrainte. Alors que souvent, toutes les applications qu'on développait, c'était une application, un service, et alors on essayait de voir comment est-ce qu'on pouvait faire communiquer les systèmes entre eux. Il y a des possibilités techniques aujourd'hui que permet l'Internet, qui ne sont pas assez mises en œuvre, qui permettent de vraiment créer une infrastructure totalement transparente pour la circulation des données. Alors, un petit tableau récapitulatif sur la vision que j'ai d'hier et puis de ce qu'on a maintenant sur quelques points, certains dont j'ai déjà parlé, et d'autres que je vais développer rapidement. Donc les médias avant étaient centralisés, maintenant ils sont distribués. Les contenus, on disait le contenu est roi, en anglais, content is king. Et moi je disais toujours, non, content is respublica. Le contenu est un bien public. Et aujourd'hui, si vous regardez les ressources pédagogiques, il y a tout un mouvement autour de ce qu'on appelle open educational resources, c'est comment est-ce qu'on va mettre des contenus libres en ligne. Parce qu'il y avait quand même une formidable escroquerie de la part des éditeurs. C'est que les éditeurs prenaient des contenus qui étaient développés par des académiques, et puis donc ça ne leur coûtait pas grand-chose, et puis ensuite ils leur mettaient en vente pour les élèves, pour les étudiants. Maintenant, ça y est, les éditeurs, ils sont, ce qui peuvent être très utiles dans certains contextes, mais dans le contexte de celui de l'éducation, ils sont, à mon avis, pas très utiles. Les réseaux, avant, l'architecture, c'était centralisé, maintenant on a des réseaux. La personne de consommateur à coproducteur, l'architecture, elle était imposée, maintenant elle peut être co-conçue. La force de l'Internet, c'est qu'on peut, on peut devenir des architectes de l'Internet. C'est difficile d'être l'architecte d'une ville, parce qu'on a des contraintes physiques. Sur l'Internet, on est libre, on peut faire pratiquement ce qu'on veut. Et si on a les codes, eh ben, y a aucune limite à sa capacité de création. Système agrégé, les savoirs avant étaient dans les livres, maintenant ils sont dans les réseaux, ils sont dans des serveurs. Les technologies avant étaient statiques, maintenant ben, on est sur le mobile. Hein. Les données avant étaient contrôlées dans des silos, maintenant elles sont beaucoup plus libres, il y a tout le mouvement autour des données ouvertes. Programmer, avant c'était un travail qui était fait par des experts, et je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent du plan informatique pour tous, et puis de logo, etc. Quand on apprenait à programmer à l'école, ce qu'on voulait c'était inculquer des éléments de logique ou de mathématiques, et puis c'était plus amusant de jouer avec une tortue que de faire des maths, en tout cas bon, c'était une des raisons qui était avancée. Mais c'était des exercices très académiques qu'on faisait. Maintenant, avec l'Internet, on a la possibilité de vraiment transformer l'Internet. C'est-à-dire que dès qu'on développe une application, y compris sur un système aussi fermé que l'iPhone, il y a un vrai problème avec Apple qui verrouille tout, mais il y a des gens qui créent des applications qui, d'emblée, sont distribuées à des millions de personnes. Donc, entre le gamin qui, à l'époque où on apprenait le langage Logo, faisait son petit truc dans sa classe, et puis avait comme audience les quelques personnes autour de lui, là, l'audience, elle est mondiale. Et on crée des outils qui peuvent transformer la façon dont on travaille, on communique. Donc, les citoyens peuvent devenir aussi des programmeurs. Et je pense qu'on passe du participatif au contributif. Et donc, voilà, le slogan anglais, c'est « The right way for the right society », c'est apprendre à réécrire le logiciel de la société, programmer. Il y a une vraie éducation à la programmation. C'est un langage. C'est un langage. On apprend le français, on apprend l'anglais. Et aujourd'hui, coder, ce n'est pas très, très difficile. Il y a des langages qui sont extrêmement simples. Faire une requête Sparkle, par exemple, sur une base de données, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. On a aujourd'hui un programme qui est... on va apprendre Excel, les tableurs, pour être politiquement correct, les traitements de texte. Mais oui, oui, pourquoi pas, il faut le faire. Mais en apprenant des outils qui sont des outils qui vont permettre de créer, de raconter des histoires, d'utiliser, d'exploiter les données, de créer des nouvelles données, de créer des bases de données, là, on crée des citoyens, pas simplement des gens qui vont savoir utiliser Excel pour pouvoir remplir une note de frais, par exemple. Mais il y a quelques problèmes. Je pense que le premier problème, c'est que, alors que les écoutes sauvages restent illégales, nous mettons nos conversations et notre intimité en libre accès des marketeurs. On en est au point aujourd'hui, on est un petit peu comme les paysans qui sont à la fin d'une chaîne où finalement ça devient plus que des distributeurs, ça devient pratiquement des distributeurs de produits phytosanitaires, hein, c'est ça, ils sont là, voilà. Nous devenons en quelque sorte les terminaux d'un monde qui est dominé par les marketeurs. Il y a ce risque-là, et c'est un vrai danger. Parce que écrivez un mail sur Google qui parle... Moi, j'en ai fait l'expérience, hein, parce que je voulais installer une belle cuisinière avec un bouilleur à bois, une belle italienne dans ma maison. Donc j'avais envoyé quelques mails là-dessus. Google, je recevais de la publicité après, c'est-à-dire que Google espionne mon courriel. Donc on viole notre intimité et on en est au point aujourd'hui avec Facebook, où vraiment on est en train de coder l'information de telle façon que ce qui était privé avant sur le téléphone maintenant devienne public. Je ne sais pas pourquoi on dit que l'Internet est public. Dans un espace public, on peut avoir des conversations privées, sauf que là on a des écoutes et là il y a un vrai problème d'intimité qui se pose. Le deuxième problème qu'on peut identifier, c'est celui de l'explosion de ces données personnelles. On a des informations sur nous un peu partout, sur le site de la CNCF, sur le site de l'université, et sur Facebook, sur LinkedIn, il y a une dispersion d'informations et qui ne sont pas sous notre contrôle. Et on a vraiment une identité, ou en tout cas les données qui nous représentent, à savoir est-ce que c'est notre identité, ça on peut en discuter, mais qui est en miettes. Et on est un petit peu dans cette situation-là, où nous n'existons pas, et la proposition que je fais, c'est que l'asservissement de nos données personnelles affecte notre capacité à construire notre identité. Et donc, pour résoudre ce problème-là, il faut arriver à une intégrité numérique. Et il y a une grande différence en France et dans le monde, on parle souvent de protection des données personnelles. En anglais, c'est privacy. Et je pense que c'est un très mauvais terme, privacy. Non pas que je suis contre la privacy, mais que privacy, ça se dérive en privé. Et l'idée qu'on va pouvoir créer un espace, il y a des applications qui se développent dans ce sens-là, en disant, voilà, on va mettre toutes nos données dans une espèce de coffre-fort, et puis comme ça, on va protéger notre coffre-fort. Ce qui est parfaitement stupide, parce qu'un coffre-fort, on peut toujours l'attaquer. Et qu'il y a d'autres techniques qui permettent d'avoir des données, j'en parlerai pas ce soir, mais on pourra en parler plus tard, qui permettent de rendre ces données publiques tout en étant parfaitement anonymes. Et ça c'est quand même des techniques qui sont tout à fait intéressantes. Donc, donner à chacun la possibilité d'exister comme sujet de plein droit sur... Nous ne sommes pas émancipés sur Internet. Nous sommes, on peut presque parler d'esclavage numérique. Alors, oui, physiquement, on est quand même encore libre. Mais sur l'Internet, on n'est pas très loin. Quand on regarde ce que fait Google, ce que font Facebook, c'est une espèce d'esclavage numérique. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver ? Alors, je reviens au sujet qui était le point de départ, mais c'était, je pense que c'était des points qui peuvent susciter réflexion. Alors, il y a des géographes ici. Alors, vous connaissez tous, bien sûr, cette phrase d'Alfred Georges Lipsky qui dit ouais, une carte, c'est pas le territoire. Bon, pourquoi ? Parce que c'est vrai que les mots, le concept, le chien, le mot chien ne mord pas. Donc, la carte, c'est pas le territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Internet, ça peut être exactement le contraire. C'est-à-dire que l'Internet, il se construit à partir de mots. Les mots qu'on écrit, les codes qu'on écrit. Donc, ce sont vraiment les mots qui créent l'Internet. Il n'y a pas, de biologie, ou tout ce qui est sur Internet est complètement construit. Ce sont nos mots qui le construisent. Et l'Internet, c'est un espace qui est un territoire. Et du coup, la carte devient le territoire. Et ça peut avoir... Voilà, c'est sur... excusez-moi. J'ai fait une mauvaise manœuvre. La carte combative peut avoir un impact sur le territoire. Et donc, je voudrais vous donner très peu d'éléments, mais j'espère que ça peut vous éclairer. Alors, voilà un exemple de ce qui est développé à Rennes, métropole, c'est la ruche. Qu'est-ce que c'est que la ruche ? C'est une espèce de réseau social dans lequel on met en ligne l'ensemble des ressources. Alors là, je lis, hein. Un réseau social réalisé, animé et modéré par l'association Bug. Ce service a pour but de mettre en relation les habitants de Rennes et des environs, des associations, des collectifs. Chacun peut créer un profil et donc exister en tant que tel sur son territoire. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qu'ils font là, c'est bien, mais ils ont leur propre service. Ça devient encore une espèce de silo. Ils ont leur propre application, alors qu'on pourrait imaginer une architecture qui soit beaucoup plus ouverte, dans laquelle, chacun pourrait être capable de reproduire ça au niveau d'une ville, au niveau d'une métropole, ou au niveau d'une région, ou d'un pays, au niveau de communautés. Et donc, moi, ce que j'essaierais de vous proposer, c'est de dire pourquoi ne pas développer une application. Un service qui permettrait d'identifier l'ensemble des ressources qu'il y a sur le territoire. Alors, la façon classique de faire ces choses-là, c'est y a des experts qui font un inventaire, on va prendre les bases de données de Pôle emploi ou d'autres. Moi, ce que je propose, c'est de faire un inventaire contributif. Et pour ça, je vais vous dire deux mots de ce que c'est que le projet Open Badge. Vous connaissez les badges des scouts et des éclaireurs, les badges qu'on retrouve aussi dans les jeux vidéo. Hein, on gagne des badges quand on a atteint un certain stade. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir afficher ces compétences, ces réalisations, de façon à pouvoir trouver un emploi, de façon à faire valider ses compétences, par exemple ? Vous avez un système qui est en train d'être mis en place aujourd'hui avec Mozilla, qui est Open Badge, vous avez une architecture qui est très simple, extrêmement simple, aussi simple que ce qu'on retrouve sur l'Internet aujourd'hui, avec quelqu'un qui va produire un badge, qui va vous donner ce badge-là. Et donc, quand vous lirez le badge de la personne, vous êtes sûr que vous savez quelle est la source qui a créé ce badge-là. Donc ça peut être l'espace Mendès France, par exemple, qui crée des badges pour les personnes qui ont assisté à des formations, qui ont démontré des compétences. Ça peut être l'université qui peut délivrer un badge à la suite d'un diplôme. Ça peut être quelqu'un qui va publier un badge pour dire voilà le type de carrière que je veux développer. Et donc, c'est quelque chose qui est très très simple. Hein. C'est des données, c'est simplement des métadonnées. Hein. C'est quelques mots, des pointeurs qui peuvent se trouver sur une base de données, sur un référentiel de compétences, par exemple, et qui permettent, par exemple, de valider les acquis de l'expérience, de chercher un emploi. Quand je pense que Pôle emploi aujourd'hui, vous savez qu'il y a il y a un standard européen qui s'appelle Europass, hein, pour la production de son CV. C'est même pas possible sur Pôle emploi de télécharger un CV au format Europass. On est obligé de le réécrire à la main. Je veux dire, c'est quand même formidable. Non, c'est, alors que ça coûte, honnêtement, en termes de programmation, ça prend, on va dire, une demi-journée. Quelqu'un qui est très fatigué, peut-être une journée, parce que c'est, tous les codes existent déjà. Donc, ce n'est pas très, très compliqué d'écrire un parseur pour mettre un CV Europass. Être découvert par un employeur, être découvert par un client. Là, ça, je pense que c'est un point qui est important. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années par la Commission européenne qui dit que pratiquement 50% des Européens souhaitent être auto-employés. Ça, c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que quand en France, on a mis en place le statut d'auto-employeur, il y a plusieurs millions de personnes qui se sont jetées dessus. Mais le problème de quelqu'un qui est auto-employé, c'est comment est-ce qu'il va faire pour trouver ses clients ? Quand on est en entreprise, on a tout un service marketing. Comment est-ce qu'on peut être découvert ? Et je pense que c'est la grande, grande force de l'Internet, c'est pas simplement de publier, c'est la capacité d'être découvert. Et comment est-ce qu'on va pouvoir créer les conditions pour pouvoir être découvert ? Parce que quelqu'un, par exemple, peut souhaiter d'être employé, salarié à 10% de son temps, peut souhaiter être entrepreneur pour 30% de son temps, peut souhaiter travailler dans une association pour 50% de son temps. Et donc, aujourd'hui, on parle de plus en plus de carrières portfolio, où qui peuvent être, on va avoir plusieurs employeurs au même moment, plusieurs activités au même moment, ou dans le temps. Et ce qu'il faut pour arriver à faire ça, il faut donner la possibilité aux gens d'être découverts. De pas forcément passer par les fourches codines d'une institution ou d'une autre, où il faut s'inscrire quelque part. Là, avec une technologie comme Open Badge, on publie ces données sur l'Internet, et ensuite les moteurs de recherche sont capables de vous retrouver. Et ça, c'est pas très très compliqué. Par exemple, aujourd'hui, ce serait très très simple d'écrire une requête en disant « Je cherche un programmeur Java qui parle japonais et qui habite en Australie ». C'est pas compliqué si on a bien organisé les données. Et quelque chose comme Open Badge permet de le faire. C'est-à-dire donne à la personne la possibilité d'exister sur l'Internet sans avoir à passer par le moindre service. Pas la peine de s'inscrire à Facebook, pas la peine de s'inscrire à Pôle emploi, pas la peine de s'inscrire nulle part. On crée un badge, on le met quelque part sur son blog, sur sa page personnelle, et du coup, on peut être découvert. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut changer les choses. Et sur un territoire, ça c'est un vieux rêve que j'avais évoqué avec Didier, imaginons qu'on puisse identifier l'ensemble des compétences qu'il y a sur un territoire. Si chacun était capable de créer son profil en disant voilà les choses que je sais faire, parmi les choses que je sais faire, il y a des choses qui peuvent être utiles pour trouver un emploi. Mais il y en avait d'autres qui peuvent être utiles, comme dans les réseaux d'échange réciproque de savoir, en disant voilà les choses pour lesquelles je peux aider, contribuer. Et rendre l'ensemble de ces choses-là visibles sans passer nécessairement par un service particulier, c'est quelque chose qui est non seulement possible, mais qui est nécessaire. Il y a un principe de base quand on fait de l'informatique, c'est ce qu'on appelle la séparation du code et des données, du programme et des données. Il faut que les données soient quelque part, dans un format, peu importe le format, et qu'il y ait d'autres services à côté qui exploitent, et peut-être des services différents. Ça peut être Pôle emploi qui va se dire « Tiens, je vais exploiter le pouvoir d'Open Badge », ou ça peut être la ville, ou ça peut être la région qui va dire « Voilà, j'ai l'ensemble de ces données. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire, par exemple, de la gestion prévisionnelle des compétences. Ben, voilà les compétences que j'imagine à 10 ans. Voilà les compétences qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour emmener l'ensemble de cette population vers les compétences qui sont attendues dans les 10 ans à venir ?» Donner, libérer les données, non seulement les données publiques, mais les données personnelles. Et pour inciter les gens à libérer les données personnelles, il faut créer un espace de confiance. Oui, j'avais mis en anglais, vous voyez, ça donne Open Specification, Open Infrastructure, Open Source, Open Data, Open Me. Alors, je l'ai mis après en français. Vous comprenez des fois pourquoi on utilise l'anglais, parce que en français, ça, même, vous voyez, la... C'est pas. Et même le moi ouvert, c'est. Open me, en anglais, pour ceux qui pratiquent l'anglais. Ça y est, ça résonne, mais moi ouvert. C'est sans doute dû à mon manque de maîtrise du français. Je suis prêt à écouter vos leçons de français. Donc, ce serait une bonne occasion d'améliorer mon français. Mais je vous assure, des fois, c'est pas facile. Hein. C'est comme lifelong learning, hein, c'est quatre syllabes en français, c'est apprentissage tout au long de la vie. Donc, voilà. Donc, l'idée de Open Me, hein, c'est je m'ouvre aux autres. Comment je vais pouvoir ouvrir mes données personnelles ? Et le faire en toute confiance, sans passer par Facebook ou par LinkedIn. Donc créer les conditions pour exister comme un sujet émancipé sur Internet. Je pense qu'il faut voir Internet comme un territoire sur lequel on veut pouvoir avoir son existence. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Internet des objets. Comment est-ce qu'on va faire communiquer les objets entre eux? Il n'y a pas de projet, je ne connais pas, qui parle de l'Internet des sujets. C'est-à-dire comment est-ce que des sujets émancipés peuvent vraiment exister sur l'Internet. Sur Internet, on est tous... On existe derrière un navigateur. Hein, on se connecte, on existe derrière un navigateur. On n'a pas une existence permanente sur l'Internet. On n'a pas vraiment d'identité, un lieu focal sur lequel on peut exister. Et pourtant, la technique existe, ce qu'on appelle des proxys, par exemple. On pourrait très bien avoir un ou plusieurs proxys qui permettraient d'exister de façon permanente, d'être identifié ou pas, et d'être complètement, y compris d'être complètement anonyme, tout en créant un réseau de confiance. Et je pense que l'Internet des sujets, c'est quelque chose qu'on peut créer. C'est un territoire à conquérir. Donc il y a tout un tas de... L'idée d'ouverture, alors là pour le coup je l'ai laissé en anglais parce que je suis désolé, en français c'est moins lisible, c'est l'apprentissage ouvert, les ressources éducatives ouvertes, les badges ouverts, le business ouvert, l'emploi ouvert, tout ce qui est les logiciels ouverts, et créer une société ouverte qui soit une société sur laquelle on puisse écrire, qu'on ne soit pas simplement des lecteurs, mais qu'on puisse être des contributeurs. Donc la proposition que je vous fais, c'est devenons les architectes de la toile. Hein. Écrivons le web ensemble pour écrire la société. Je pense qu'avec le web, on sera capable d'avoir un impact sur la société. Peut-être que le territoire, la carte va devenir le territoire. Voilà. Mais comme il y a des géographes, je suis sûr qu'ils vont avoir des choses...
Juste un commentaire et un remerciement, mais effectivement, ça serait bien d'entendre nos géographes, Yves-Jean, président de l'université. J'ai relevé 3 fois la référence au mot université. Juste un commentaire. D'abord, merci d'avoir répondu vraiment à la commande, parce que là, comme le sait Dominique, le souci à travers ce cycle, c'est de se saisir d'enjeux de société, mais de voir comment le territoire peut se l'approprier, le traiter. Et là, vous l'avez fait à merveille. En tant que journaliste, je peux témoigner du fait que ce que vous nous proposez avec cet inventaire à travers ce système d'open badge, de badge ouvert, etc., répond à de réels besoins, mais que les acteurs du territoire n'arrivent pas forcément à formuler. Et je vais demain à Saint-Nazaire où il y a eu néanmoins une démarche prospective qui a été engagée sur le territoire de l'agglomération. Ils en sont venus à faire l'inventaire à travers un système de cartes cartographie dynamique de toutes les questions qui avaient émergé du territoire. Ce n'était pas aussi élaboré que votre système, mais je pense qu'il y a un besoin des territoires à inventorier et je trouve que vous nous ouvrez une piste. Mais moi, personnellement, je suis emballé. Mais est-ce que c'est le cas du public? Est-ce que c'est le cas des géographes qui sont vraiment très terre-à-terre hein? Je dis ça pour les provoquer un peu, non? Alors, voilà. Pardon Non, je suis journaliste, intéressé à la géographie, mais je ne suis pas. Question ? Monsieur, n'hésitez pas à dire qui vous a... Ah, parfait. Merci encore. Hein. Très bien.
Oui, ça marche. Oui, est-ce que vous attiriez notre attention au début sur, finalement, les dangers d'être repéré partout sur Internet ? C'est bien vrai, c'est un peu ça. Bon, si on met des badges, ouverts, par définition, comme dirait l'autre, c'est la porte ouverte à tous les abus, non ?
Ce serait vrai si les badges sont anonymes. Les badges sont complètement anonymes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, et ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, et c'est pas rocket science, comme on dit en bon français, de faire des systèmes qui sont complètement anonymes, en même temps totalement sûrs. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si vous avez un badge qui a été délivré par l'université, d'accord, vous pouvez l'afficher sur une page avec un pseudonyme,
Il y a la photo.
Ah, mais si vous mettez la photo, bien non, sûr.
Sur l'exemple que vous avez donné, il y avait.
Mais c'est un choix qu'on peut faire. Mais par défaut, un badge est complètement anonyme. Ce qui n'est pas anonyme, c'est celui qui a donné le badge. Donc, celui qui a donné le badge, si c'est l'université, si c'est quelqu'un de confiance, on sait qu'il peut avoir une certaine. Il est authentique. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un envoie un CV, le CV, on écrit ce qu'on veut dessus. On peut toujours dire qu'on a un diplôme. On peut même, y compris, faire un faux diplôme.
Oui, oui.
Papier. Avec un badge, c'est pas possible. Celui qui donne le badge, qui fournit le badge, garde ça sur sa base de données. Donc, on va aller voir sur le service de l'université, est-ce que ce badge-là a bien été délivré par l'université? Mais il n'y a pas besoin de savoir si la personne, le nom de la personne, il suffit de savoir que celui qui affiche le badge, eh bien, a bien reçu un badge de l'université. Donc c'est complètement anonyme. On se pose en France la question du CV anonyme. Eh ben, là, on a non seulement un CV qui est 100%, on peut toujours, j'imagine qu'il y a probablement des moyens de truander le système, mais par défaut, le système assure que le badge a été donné par... Et ce qui est intéressant avec la notion de badge, c'est qu'on a un vrai réseau social. Mmh. C'est-à-dire que celui qui a offert le badge reste en correspondance avec la personne qui a reçu le badge. Donc imaginons par exemple dans un domaine particulier que les compétences évoluent, ça veut dire qu'on est toujours en contact et qu'on peut peut-être envoyer un mail à la personne pour dire, voilà, il faudrait que vous améliorez vos compétences. On crée des systèmes de dialogue. On n'est pas simplement dans quelque chose qui est donné. On imagine même tout un tas d'applications autour de ça. Comprenez bien qu'au départ, quand vous disiez qu'il y a un système, non, il n'y a pas de système. Non, mais je comprends pourquoi vous disiez ça. Il n'y a pas un système. Il y a simplement des données. Voilà. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire qu'on a des données. Comment est-ce qu'on peut faire pour libérer les données en assurant la protection des données personnelles, éventuellement, quand c'est absolument nécessaire, tout en laissant la liberté à des services de se créer à partir de ces données-là. C'est transposer dans le domaine des données personnelles ce qui s'est passé dans le domaine des données publiques. On a demandé de libérer les données publiques.
Oui, oui, tout à fait.
Je ne sais pas si à Poitiers, il y a eu des initiatives qui ont été faites, mais je reprends Rennes, par exemple. La ville de Rennes avait organisé un concours doté de prix en disant, voilà, on libère les données de transport, on libère les données...
En principe, les collectivités locales, les administrations doivent libérer ces données.
C'est une obligation légale.
C'est en cours, ouais. D'accord.
Oui. Et donc, c'est se dire que à partir des données, le vrai pouvoir est dans les données, dans l'exploitation des données.
Alors, cela dit, pour prolonger l'interrogation de monsieur et surtout la réponse que vous avez donnée, il me semble que dans ce que vous avez dit, vous avez esquissé la nécessité quand même de l'existence d'une sorte d'instance qui valide. Vous avez évoqué même une université, que ce pourrait être l'université. Donc, le système, entre guillemets, je mets des guillemets pour les raisons que vous avez dites, il n'est pas si ouvert, il suppose une autorité qui valide la qualité de l'information. Ça va dans ce sens-là ? Voilà.
Oui, ma question, elle est liée à ça, c'est-à-dire que je trouve que c'est très intéressant, ce système d'open badge là, et de certification, en quelque sorte, des compétences affichées par les gens. Mais ma question, elle est quand même sur comment, du coup, valoriser ou certifier les savoirs informels, les savoirs qui sont liés à l'expérience de vie, etc. Parce que là, on n'aura pas d'autorité qui est tamponneuse du badge.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les badges ouverts ont été conçus précisément pour ça. Et qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de concurrence. Et les gens qui développent Open Badge font très très attention pour ne pas effrayer l'université qui se dit, là on est en train de mettre un système concurrent avec ce qui se passe avec les certifications officielles. L'idée d'Open Badge, c'est de dire comment est-ce qu'on va pouvoir reconnaître de façon informelle des apprentissages qui ont été acquis de façon informelle. Et moi, ce qui m'a toujours sidéré, c'est le paradoxe qu'il y avait à dire, il y a des apprentissages informels, voilà, ça existe, on le sait, comment est-ce qu'on va faire pour les reconnaître formellement?
Pourquoi ne pas les reconnaître informellement au sein d'une communauté de pratique, par exemple. Si on prend tous les gens qui ont travaillé sur les notions de communauté apprenante, hein, une communauté apprenante, c'est une communauté qui s'autorégule, dans laquelle on reconnaît les experts, les apprentis, et ce sont par simple jeu de transition. Hein. Moi, je te reconnais, tu me reconnais. Alors, ça peut être moi, je te tape sur les. Ça peut devenir ça. Il y a toujours ce risque-là, mais on a les outils qui permettent de mettre en place, de donner du pouvoir, de donner des éléments de reconnaissance qui peuvent être délivrés de façon informelle.
Mais ça suppose quand même une communauté de pratique autour.
Oui.
Ça veut dire que le gars qui fait je ne sais pas quoi de super extraordinaire tout seul dans son garage depuis 20 ans, qui va valider ça? Qui va dire...
On peut créer son badge. Alors ça c'est intéressant parce que c'est une, par exemple, je prends le on peut créer son propre badge, d'accord, et demander à des personnes de le valider. On peut faire aussi un badge qui est autodéclaratif, on dit voilà ce que je sais faire. Mais ce qui est intéressant dans le badge, c'est de dire voilà les compétences. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il y a des enseignants qui ont utilisé ça, par exemple, qui ont utilisé le badge pour l'évaluation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris un référentiel qui était tout fait, quoi qu'ils peut-être l'avaient dans la tête, mais ils se sont dit avec les élèves, créons ensemble les critères d'attribution du badge. Et puis, discutons ensemble de qui mérite le badge, ou de qu'est-ce qu'il faut faire, ou si tu n'as pas 80% de ton, si tu as 80% de ton badge, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu atteignes les 100% du badge. Donc, le badge devient un outil de dialogue, c'est pas simplement un objet mort, c'est un catalyseur pour créer, c'est un outil de dialogue pour moi, avant tout. Si vous voulez, le badge, c'est pas un badge, c'est un outil de relation. Un petit peu comme, pour faire un parallèle, c'est, quand on parle de métadonnées, on dit les métadonnées, c'est des. Souvent, on le voit simplement comme un commentaire sur un texte. Hein. Mais moi, les métadonnées, je les ai toujours vues dans ma tête comme des liens. Les métadonnées, c'est ce qui permet de relier des tas d'informations entre elles. Non pas comme un commentaire, mais comme un lien. Et je pense que le badge. Excusez-moi. Je pense que le badge, c'est du lien.
Et Serge.
Et c'est un lien social, c'est un lien intellectuel, c'est un lien...
Vous ne l'avez pas vu, mais... Ah, il y a une question là. Mais Yves-Jean... Et pourtant, parce que je te voyais acquiescer, Yves-Jean, président de... Oui, non, mais tu as le droit, mais ça m'intéressait de savoir pourquoi le représentant de l'université acquiesçait au propos en quoi ce système de... les open badges pouvaient être intéressants pour l'universitaire que tu étais, éventuellement, mais il y a une question dans la salle, ça te laisse le temps de la réflexion.
Ah, très bien.
Non, tu veux pas?
Ouais, je mets un petit peu les pieds dans le plat et je suis un petit peu provocatrice exprès, mais...
Merci. Enfin,
moi, je suis, évidemment, je suis séduite par cette proposition, mais je trouve que c'est un côté un peu bisounours. Dans la mesure où on est dans une société qui est tellement envahie par le marché que je vois pas comment un système comme ça se fera automatiquement accaparé par les gens du marché. Et il y a une question de comment imaginer, j'imagine que vous avez réfléchi à ça, et quand on voit par exemple qu'actuellement tous les avis qui sont donnés par les internautes sur n'importe quoi sont à 90% pipés par les commerciaux qui gèrent ces sites, on se dit que comment faire en sorte que l'identité de chacun en termes de valorisation de ses compétences soit réelle, voilà. Et pas pipée.
Est-ce qu'on peut
au profit d'une clientèle qui pourrait être captée, parce que on est dans de l'échange, mais on est tout de même dans de l'échange virtuel. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, comment à un moment donné l'humain physiquement il revient sur le tapis pour que ça se rencontre. Donc voilà.
Ouais. Auparavant, est-ce qu'on pourrait savoir qui vous êtes? Ça serait indiscret. Est-ce qu'on peut connaître votre badge?
Votre identité.
Moi, je m'appelle Anne-Marie.
Je suis retraitée, j'ai travaillé dans le socioculturel pendant 40 ans. Voilà.
C'est intéressant de savoir. Serge.
La question est légitime. Vous preniez les gens qui écrivent des commentaires sur, je sais pas, les hôtels, les restaurants, etc. Mais aujourd'hui, ce sont des données qui sont accaparées par des services. Mais on ne sait pas vraiment qui est-ce qui a émis l'avis. On ne sait pas. Avec un badge, c'est très simple, on sait. Par exemple, si on utilise la technique du badge, le badge, c'est rien, ce sont que des métadonnées, c'est que ça, qui disent, voilà, par exemple, moi, je donne un badge à un hôtel. J'ai créé mon propre badge, voilà, j'ai donné ce badge-là, où il y a un badge qui existe, qui est bon hôtel, mauvais hôtel, enfin, voilà, je délivre ce badge-là. Je connais la source. Je peux être complètement anonyme, mais avoir une identité. Pourquoi ? Parce que je peux avoir fait 300 ou 400 revues d'hôtels. Moi, quand je vais me connecter sur un site qui fait des revues d'hôtels, peut-être qu'il y a un certain profil qui correspond à mon profil. D'autres profils dont je ne vais pas vouloir, parce que je sais, par exemple, que... Ah, pardon. Parce que avec ce système de badge, je vais avoir la possibilité de savoir quel est le lien entre la personne... Quel est le lien entre la personne qui a produit le badge et puis peut-être l'hôtelier. Peut-être qu'il y a des liens de proximité. Donc, ce qu'on est capable de voir dans un réseau social, c'est... On sait par les degrés de connectivité qu'on est tous liés... Moi, je suis peut-être lié à vous à travers 3 ou 4 autres personnes. À partir du moment où il y a quelqu'un qui commence à exister sur l'Internet de façon complètement factice, d'accord, hein, une espèce de robot qui a été créé comme ça, le réseau social devient un filtre. Le réseau social devient un filtre parce que je me dis, tiens, cette personne-là qui s'est créée peut-être 300 amis, mais ces 300 amis-là n'ont aucune connexion avec moi ou avec d'autres personnes, j'ai la possibilité de déterminer que c'est factice ou en tout cas de présumer que c'est une identité qui est factice. Donc on a la possibilité, en utilisant des données qui sont à qui es-tu connecté. Et même une autre donnée qui n'est pas utilisée sur l'Internet aujourd'hui, c'est quel est l'âge Internet que vous avez. Hein ? À partir du moment où on crée une identité sur Internet, par exemple, et tout peut servir d'identité, ça peut être une adresse de courriel, ça peut être une adresse IP sur l'Internet, tout peut servir d'élément d'identité, qui peut être complètement anonyme, hein, parce qu'on peut créer des adresses Internet n'importe où. Donc tout peut être servir d'élément d'identification. Excusez-moi, la ligne de raisonnement m'a dévié. Oui, merci. Merci beaucoup. L'âge sur l'Internet. On pourrait parfaitement faire un système sur l'Internet. Vous savez que vous recevez des spams. Bon. La plupart des courriers, des pourriels que vous recevez viennent d'une identité qui a peut-être quelques heures d'existence. Ce serait très facile au niveau de l'ensemble des serveurs, de dire pour envoyer un courrier à plus de 500 personnes, il faut avoir un an d'Internet, par exemple. On pourrait utiliser l'âge comme une propriété pour donner des droits. Moi-même, quand je vais regarder une identité sur l'Internet, je peux essayer de savoir quel est l'âge de cette personne sur Internet. Donc ça peut être un indicateur. Avec qui es-tu connecté ? As-tu des relations avec des personnes que je connais ? Donc y a tout. On peut créer quelque chose qui n'est pas fixe, hein. Non pas nos données qui sont dans un espace, mais qui va nous décrire par notre âge, Internet, si vous voulez, et l'ensemble des connexions que nous avons. Parce que notre identité, ça c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, notre identité, c'est pas un ensemble de données qu'on est capable de localiser quelque part, parce que mon identité, elle n'est pas chez moi, elle est chez vous. L'identité, elle est distribuée. Je peux avoir l'identité que j'essaye de me créer, mais mon identité n'existe pas en dehors de vous. Donc pour vraiment avoir une identité sur Internet et exploiter les capacités de l'Internet, il faut exploiter les capacités des réseaux sociaux. Et les badges sont une façon très simple, puisque ce sont juste des métadonnées, de mettre en avant le réseau social.
Serge, peut-être pourrais-tu revenir sur la carte de Rennes et... peut-être, pour faire du poitevino au poitevinisme, permettre aux personnes qui sont dans la salle d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur qu'est-ce qu'un opérateur multi-identité peut apporter à un territoire comme l'agglomération de Poitiers, en sachant que tu as parlé de l'université, accessoirement de l'espace Mendès France, mais j'imagine qu'il y a d'autres structures, d'autres institutions qui ne sont pas forcément dans des champs repérés comme étant ceux de la connaissance, de la diffusion de la connaissance, du savoir, qui peuvent contribuer à ce type de choses. Donc peut-être le préciser, aller un petit peu plus loin dans la nature des contributeurs.
Bah, pour moi, c'est absolument tout le monde, quoi.
Peut-être pour prolonger l'interrogation, si vous le permettez. Moi, je voulais qu'on revienne sur le point initial, c'est-à-dire l'idée d'inventaire qui est à l'origine, si j'ai bien compris, de cette idée d'open badge, etc. Mais une fois qu'on a inventorié, est-ce à dire que c'est uniquement entre des personnes du même territoire, ou est-ce que de proche en proche, on peut articuler des cartes voilà.
C'est toute la logique des systèmes ouverts. Oui. Un système ouvert permet de bâtir plusieurs projections, et la projection peut être sur la ville, sur la région, sur le pays, ou ça peut être une projection sur une communauté d'intérêt. Ça peut être l'ensemble l'ensemble des géographes, par exemple, la communauté des géographes, la communauté des maires. Donc, ensuite, on organise les vues comme on veut. Je crois que c'est ça la grande... Penser la séparation des données des services, c'est de dire on a des données, on essaie d'organiser les données de façon sémantique, c'est pas très très compliqué aujourd'hui de le faire, de telle façon qu'ensuite on puisse créer toutes les représentations qui nous permettent d'entrer dans l'action. Et par exemple, si on peut prendre, on peut utiliser DBpedia, une base de données sémantique qui est faite par Wikipédia pour rentrer ce type d'informations-là, les relations... qui existe entre les différents acteurs contributeurs.
Et ça, c'était pour prendre cet exemple, c'est co-construit selon le principe donc de Wikipédia, c'est enrichi au fil du temps. Oui. Voilà, il n'y a pas un opérateur.
Il y a un opérateur qui s'appelle le bug.
Oui.
Donc il y a une association qui a mis ça en place.
Voilà. Oui.
Donc aujourd'hui, c'est un silo local. Mais effectivement, c'est sur Rennes. Mais bon.
Moi, j'ai une question parce que je sais que l'association Bug, ils ont aussi ouvert un site qui s'appelle le Jardin des Savoirs, où les habitants, en fait, peuvent faire un peu une cartographie de leur savoir. Du coup, c'est un peu comme Open Badge, sauf que c'est pas certifié, on va dire. Et c'est un peu tout leur type de savoir, donc pas seulement les savoirs académiques, on va dire, mais tous les types de savoir qu'une personne a pu acquérir au cours de sa vie. Et ça donne des représentations graphiques assez intéressantes qui sortent des CV habituels. Des savoirs des personnes, et donc je voulais savoir s'il y avait des liens en fait qui étaient faits entre cette application là le Jardin des Savoirs et puis ce qu'ils ont fait sur la ruche là, enfin est-ce qu'il y a des liens qui ont été créés sur un peu territoire des savoirs, enfin je sais pas trop
Je les ai pas revus récemment. Oui, merci beaucoup de rappeler ça parce que c'est un exemple tout à fait intéressant, mais je sais pas la connexion qu'il y a entre les deux aujourd'hui.
Ça repose quand même votre système sur un postulat, la sincérité de l'intervenant. Et là, je me permets d'être extrêmement sceptique.
Mais ça rejoint un peu... ça va dans le même sens ? Ah oui, pardon.
Oui, oui, j'ai bien compris, oui.
Il marche ? Oui. Bah, je crois qu'en fait, on soulève deux faux problèmes. Le premier, c'est de dire, est-ce que les données qu'on met à disposition de tous sont véritables ? En fait, quand on fait appel à un plombier, on ne sait pas s'il a le CAP de plombier, hein, celui qui se déplace chez vous. Et puis, deuxièmement, c'est le problème qui a été soulevé tout à l'heure sur les données qu'on donne à disposition, et du coup, elles seront ouvertes à tous, mais c'est l'objectif, si j'ai bien compris, du badge. Donc voilà, moi c'est juste la réflexion que...
Je pense que votre remarque est juste. La question c'est que avec le badge, hein, qui établit un lien entre celui qui certifie et celui qui est certifié, ça engage celui qui certifie. Et par exemple, vous pouvez très bien, on en a discuté lors de la réunion de Mozilla, c'était donner un badge à celui qui donne le badge. Alors, celui qui donne le badge, on l'appelle un badger, et donc un badge de badger. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir le badge de badger ? Il faut montrer qu'on est capable d'évaluer de mettre en relation des preuves de compétences avec des critères de performance. Pour être un badger, c'est tout ce qu'il faut faire. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une espèce de référentiel, ou en tout cas une grille d'analyse, et de dire, voilà, cette personne-là a prouvé à plusieurs reprises que la façon dont elle a évalué les personnes dans son domaine de compétences, parce que je pense que ça, c'est un point important aussi, c'est qu'on va être capable de calculer en temps réel la crédibilité que vous avez, vous, comme évaluateur. Donc moi, je pourrais effectivement essayer de délivrer un badge en astrophysique. Je serais très vite fait de découvrir que j'ai aucune compétence en astrophysique et que mon badge n'a strictement aucune valeur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on n'est pas capable d'établir les liens entre sauf quand on est au niveau académique. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour tous les apprentissages informels, c'est de donner comment créer un système de confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui se construit, c'est pas donné d'emblée. Et vous avez raison qu'il y aura des tricheurs, il y aura des gens qui vont délivrer des badges qui sont pas sincères. Mais on crée les mécanismes d'autorégulation.
Oui. Non, mais je voulais juste dire qu'on est en train de reproduire un peu une infrastructure de gestion de clés. C'est-à-dire qu'avec des mécanismes de confiance, et sur une infrastructure de gestion de clés, on a bien une confiance qui est donnée à un plus haut niveau et qui descend... Et là, je pense qu'on est en train de refaire, à peu près la même chose, mais sans, avec une autorégulation, une autoconfiance de base. Ce qui me paraît un peu utopique, j'ai le droit de dire ça. Il en faut un peu, hein, il faut sur le web 3.0, il faut peut-être mettre des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on a vu des dérives qui sont arrivés sur les systèmes, que ce soit Facebook et que ce soit, par exemple, comme vous disiez, Wikipédia, etc., où il y a des attributions, des choses qui sont faites et qui ne sont pas validées quelque part. Donc moi, c'est un grand danger quand même de voir des badges fleurir quelque part. Et de toute façon, il y aura un tri qui sera fait à un moment où on dira ce badge, il n'a pas été validé par exemple par l'université de Poitiers. Donc il y aura des badges académiques, des badges... voilà.
Oui, il y aura une traçabilité. Par exemple, comment est-ce que Wikipédia fait le tri aujourd'hui? Il fait le tri sur l'adresse IP. Bon, on sait qu'on peut tricher sur les adresses IP. On peut se recréer, on peut se remettre sur une autre adresse IP et puis faire du mal sur Wikipédia. Imaginons qu'on ait quelque chose comme un badge simplement, d'accord? Le badge, il faut qu'il ait été donné par une certaine autorité. Par exemple, Wikipédia pourrait avoir une... Wikipédia ou n'importe quel système contributif pourrait dire « Voilà les critères, des critères que je donne pour qu'une personne puisse effectivement avoir accès et le droit de modifier quelque chose. » Alors, quelqu'un va faire une bêtise à un moment donné, va délivrer des badges de façon inconsidérée. Du coup, cette personne va perdre de l'autorité. Alors, pour qu'elle se recrée une autorité, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va devoir se recréer une autre identité. Et son identité, ce n'est pas simplement une adresse IP, ce n'est pas simplement quelques attributs, mais c'est le réseau social. C'est que si... Alors bien sûr, il y a des tas de personnes... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup... qui n'a pas un réseau social extrêmement étendu, mais ça, c'est pas vrai. Parce que même si je suis en relation avec une seule personne, qui serait, par exemple, Didier Moreau, que si Didier Moreau me fait confiance, Didier, il a un réseau social absolument extraordinaire. Donc moi, du coup, comme Didier m'aurait donné un badge, j'aurais la possibilité d'écrire sur Wikipédia. Donc non, mais oui, mais
le problème avec Wikipédia aussi, enfin bon, ça c'est peut-être hors sujet, c'est que par exemple quand il y a un article quel qu'il soit, on ne peut pas compter. Je sais qu'une fois il y avait un article sur Wikipédia concernant Pasteur,
oui.
Donc on m'occupe de l'histoire des sciences, et en fait les personnes qui avaient, personne n'avait signé l'article, donc j'étais sur une liste de diffusion où les gens s'engueulaient. Sans pouvoir en effet dire à la personne que c'était trompé, donc il y a un problème de référé scientifique aussi. Tout à fait, oui. Et le problème de Wikipédia, c'est ça, c'est que ce qui serait intéressant quand même pour les gens qui lisent Wikipédia, c'est pouvoir dire à quelqu'un, bon, monsieur un tel, il s'est trompé, donc oui. Voilà, donc oui. Je pensais que le badge par rapport à Wikipédia était identitaire.
Oui, mais c'est une identité anonyme. Ça peut, ou non, c'est la personne de choisir, mais par défaut, on peut être quelqu'un en qui on a totalement confiance, parce que cette confiance a été attribuée par quelqu'un comme Didier Moreau, par exemple. Et je reste anonyme, mais où je me...
Moi, ça me donne pas forcément envie, parce que de toute façon, Didier, il donne sa confiance spontanément, donc ouais. Ça me donne pas envie de donner, voilà, par transitivité. Et en fait, est-ce que cette confiance, elle se construit pas ? C'est une question par la possibilité aussi de rencontrer à un moment donné la personne. Il me semble que le fait d'avoir pris l'exemple de Rennes, c'est pas innocent, parce que il me semble que c'est une ville qui a une forte sociabilité, qui est associée à l'idée qu'on peut aller rencontrer forcément rapidement une personne dans un bar, un café, etc. Et est-ce que ce que vous nous esquissez ne va pas ou ne doit pas aller de pair avec la possibilité de vivre cette relation de confiance autour d'un pot, dans un café, et donc d'ancrer ce type de système entre guillemets sur un territoire? Vous voyez le sens de ma question ou...
Oui, là j'ai pas de... Moi je participe à des communautés avec des gens que je n'ai jamais rencontrés.
Ah, quoi. Voilà.
Et la confiance est établie parce qu'on a travaillé ensemble, on a fait des projets ensemble. Il y a certaines personnes que j'aimerais bien retrouver autour d'une bière. Bon, mais ben, je le fais au cours des projets parce que j'ai pas mal de déplacements, mais c'est pas indispensable pour avoir la confiance. Ce qui crée la confiance, c'est le travail, hein, c'est le travail ensemble. Et le travail, il se fait très très bien à distance aujourd'hui. Et des fois même mieux à distance.
Sauf s'il y a une autre question. Moi, au risque de faire mon bonnet de service, je trouve que c'est quand même très stimulant et ça rencontre les demandes que je vois émerger sur des territoires. Il y a un besoin d'inventorier des ressources, sauf que les territoires, les collectivités ne se donnent pas ces moyens. Donc, quels sont les éventuels obstacles au développement de ce type de technologie ou de solution?
C'est dans la tête des gens. C'est simplement dans la tête, parce que les technologies, elles sont là. Ça casse pas trois pattes à un canard. On les a. Elles sont là. Sauf qu'aujourd'hui, on est toujours. Chaque système applicatif veut avoir ses propres données. Donc, par exemple, si on veut faire du covoiturage, il faut s'inscrire à covoiturage. On va mettre toutes ces données là. Si on veut s'inscrire vélo électrique, alors il faut s'inscrire sur vélo électrique. On est obligé de s'inscrire dans 10 000 endroits différents, c'est absurde. Il faut qu'on existe à un endroit, voilà, c'est moi, et qu'on ait des services qui viennent piocher les données là. Donc par exemple, si dans mon agenda je mets que je vais partir, il faut que, si dans mon agenda je dis que je vais faire un voyage de Poitiers à Niort, eh ben, il faut qu'il y ait une application qui puisse aller lire dans mon agenda pour dire, tiens, au fait, est-ce que ça ne vous intéresserait pas d'organiser un covoiturage? C'est-à-dire qu'on est des vraies applications qui exploitent les données. Et quand je dis qu'il faut libérer les données personnelles, c'est parce qu'en mettant ces données à disposition des gens qui ont plein d'idées sur la façon dont on pourrait organiser des services, de nouveaux services vont pouvoir émerger. Et je n'ai pas besoin de m'inscrire dans 10 endroits différents. Ce sont les services qui viennent à moi et pas moi qui vais au service. Et y compris des services auxquels je n'avais pas pensé. C'est ce qu'essaye de faire Google, oui.
Allez-y.
C'est juste.
Ma question, c'est juste. C'est ce qu'essaye de faire Google. Je le répète pour.
Oui. Ils essayent de le faire, mais ils essayent de le faire. Ils ont des intérêts marketing très très. Voilà.
Monsieur.
Pardon.
Excusez-moi.
C'est un excellent exemple que vous venez de prendre par rapport à ce que vous avez à ce qu'on a dans notre calendrier, dans notre agenda. Mais du coup, moi, la question que je me pose, mais comment est-ce que ça peut être en même temps ouvert et rester anonyme?
Sur le badge, c'est clairement facile d'être anonyme. Sur un calendrier, c'est un peu plus difficile. Mais à partir du moment où on va... Peut-être qu'il faut se poser la question que c'est, si on veut faire du covoiturage, peut-être qu'on a vraiment envie de savoir avec qui on va covoiturer. On sent... Oui. Ou si on achète quelque chose à quelqu'un, peut-être qu'on veut savoir si la personne a vraiment une carte de crédit et qu'elle a vraiment de l'argent. Mais ceci dit, le problème, c'est on sait très bien de faire de la monnaie, l'équivalent de la monnaie... des billets sur l'internet. C'est-à-dire d'avoir des paiements complètement anonymes. On ne veut pas mettre ça en place parce qu'on veut tout contrôler, c'est par les cartes de crédit, on veut savoir par où passent nos dépenses, on veut nous surveiller. Mais ça, c'est...
Alors, je trouve qu'on met le doigt sur, en tout cas, une question qui me trottait dans la tête depuis tout à l'heure, et on pourra peut-être clore là-dessus. Ensuite, je demanderai à Dominique Royoux d'assumer...
Oui, pour répondre à votre question.
Ah, quand même.
Il y a une façon... Oui, excusez-moi. Une façon de le faire, c'est ce que j'appelle... Des espaces de données personnelles anonymes. Imaginez que vous écrivez sur un mur une information. D'accord ? Vous écrivez cette information sur un mur. Lorsque vous êtes parti, personne ne sait que c'est vous, mais quelqu'un peut y répondre. Donc, quelqu'un pourrait, par exemple, votre agenda, vous pourrez très bien publier les données dans un espace public sans dire que c'est vous. L'application va rechercher ces informations, utilise ces informations, les exploite, et met un message dans la boîte aux lettres associée à vos données que votre proxy, votre représentant sur Internet, va faire du moissonnage de métadonnées. Hein. Il y a les services qui font du moissonnage de métadonnées, vous-même vous moissonnez les données, et donc vous avez une espèce de boîte aux lettres comme une espèce de poste restante, vous êtes complètement anonyme. Donc vous publiez vos données sur Internet anonyme, c'est-à-dire que vous savez que c'est vous parce que vous avez un pointeur là-dessus, peut-être que vous avez même une clé qui vous permet de les modifier alors que quelqu'un d'autre pourra les lire et pas les modifier, peut-être que vous avez même une clé qui permet à d'autres de lire, à certains de lire et pas à d'autres de lire, donc il y a tout un système de clés, c'est pas très compliqué, les technologies elles existent aujourd'hui, donc beaucoup de nos données peuvent être publiées. Alors c'est sûr que quand il y a une photo c'est pas pareil, mais beaucoup de données peuvent être anonymes par défaut. Alors bon, il y a des... je pense que c'est différent de créer une architecture qui est par défaut anonyme, que de mettre des systèmes d'anonymisation de données, où on sait très bien que ça ne marche pas, qu'on est toujours capable de retrouver qui est quoi, en fonction, particulièrement le gros problème qu'on a, c'est avec les télécommunications, où Orange, SFR, tout ça, sont toujours en train de savent exactement où on est, avec qui on communique, et ça c'est un vrai problème, c'est qu'il faudrait que ces données-là, qui sont nos données, soit sous notre contrôle et pas sous le contrôle de l'opérateur. Ça, c'est un vrai problème que malheureusement, tout le monde, que les politiques ne veulent pas adresser sérieusement.
Une dernière question. Ensuite, alors j'annonce quand même un propos de Dominique Royoux qui présentera également les actes. Et puis, cerise sur le gâteau, un mot de Christine Drugman, que vous connaissez sans doute si vous fréquentez la librairie La Belle Aventure, et qui a été partenaire de cette édition en accueillant avant ses soirées l'invité, l'intervenant dans sa librairie. Et j'aimerais qu'elle nous fasse aussi un feedback, comme on dit en bon français, sur ce qu'elle a entendu. Et peut-être son rapport au numérique en tant que libraire, si elle le souhaite. Mais auparavant, la question.
Oui, vous ne pensez pas qu'à force de rester anonyme, on va rester virtuel, on va passer de plus en plus de temps derrière son écran ou devant son écran, et on va de moins en moins communiquer en vis-à-vis avec ses semblables?
Honnêtement, je ne pense pas. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps parce qu'il faut... répéter l'information, il faut surveiller. On peut avoir des systèmes qui sont des systèmes qui viennent plus à nous que plutôt nous aller vers eux. Donc, je suis plutôt optimiste de ce côté-là. Mais il y a un risque, je ne sais pas, on va voir. Quoi. Peut-être qu'on est en train de faire une grosse bêtise et on le découvrira dans 5 ans, mais a priori, je fais plutôt le pari que ça va être intéressant. Il y a un potentiel qui est absolument énorme. Exploitons-le. Si on fait des bêtises, on corrigera. Quoi.
Et précisément, tout à l'heure, on a dit que ça s'articulait aussi à des usages qui pouvaient consister à se retrouver dans des espaces sociaux. Et d'ailleurs, permettez-moi juste de vous alerter sur le risque à parler trop d'ouverture, ouverture par-ci, ouverture par-là. Je crois que les solutions auxquelles on aspire, c'est des solutions qui permettent de s'ouvrir, mais aussi de ménager des espaces d'intimité et d'être dans cette ambivalence permanente.
Non, vous avez tout à fait raison. En anglais, on parle de privacy.
Tout
et privacy, ça se dérive facilement en private. Et l'idée qu'on a derrière privé, c'est qu'on s'enferme dans un silo. Et moi, j'ai toujours défendu, par rapport à privacy, l'idée d'intimité, l'intimité. L'intimité, c'est bien plus intéressant, parce que l'intimité, ça veut dire que d'emblée, on accepte de partager quelque chose avec d'autres personnes. Donc si on a réfléchi à des architectures de l'intimité, ça veut dire que c'est des architectures qui sont de partage, peut-être avec une seule personne, peut-être avec trois, avec différents niveaux d'intimité, alors que les architectures autour de la privacy, il n'y a pas un mot en français, il faut 10 mots pour dire privacy en français, c'est des architectures qui sont... C'est le modèle du coffre-fort, quoi. On imagine que en mettant son argent dans un coffre, ça va être protégé. Bon, on peut toujours aller attaquer le coffre parce qu'on sait que l'argent est là. Et si l'argent poussait sur les arbres, quel serait l'intérêt d'aller attaquer une banque? Et moi, ce que je propose, c'est de libérer les données, laissons-les pousser sur les arbres, et puis comme ça, ben, on n'aura pas peur qu'on nous attaque et qu'on vienne voler nos données. Je vous donne mes données, vous savez pas que c'est moi, les données sont là, les données peuvent être y compris certifiées, c'est-à-dire que si je dis quelque chose, je prenais un exemple, je m'étais toujours posé... Si on veut créer, si on est alcoolique, on se dit je veux créer un groupe d'alcooliques anonymes. Comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Je voudrais trouver tous les alcooliques que j'ai autour de Poitiers. Il y en a un paquet, bon, je vais désigner personne. Il y a une façon de le faire. Si on avait un système dans lequel on peut publier ces données en disant... Par exemple, ces cartes de fidélité, hein, c'est-à-dire on est un couple et puis on achète, je sais pas moi, 20 litres de vin par semaine ou tout seul, et on achète 40 litres par semaine ou en communauté. On peut avoir un certain nombre d'indices, de données qui pourraient être mises à disposition comme ça sur le web parce que ça permettrait à des services de les exploiter. Et moi, je pourrais lancer une requête en disant je veux trouver toutes les personnes qui ont un problème d'alcool dans la région de Poitiers, autour de 20 km. Les architectures autour de la libération des données personnelles permettent de faire ça. C'est-à-dire que je peux aller à la rencontre des gens qui ont dit j'ai un problème d'alcool, ou y compris des informations qui sont dans un dossier médical, mais qui sont publiées sur le net de façon anonymisée. C'est-à-dire que on pourrait parfaitement mettre en place un système très simple qui dirait que les personnes qui ont un problème d'alcool, l'information est publiée sur l'Internet sans qu'elle soit pointée. C'est-à-dire qu'on dit, il y a une personne qui a un problème d'alcool, on est capable d'écrire à ces personnes qui ont un problème d'alcool sans savoir qui elles sont. On sait le faire sur Internet aujourd'hui.
Peut-être une... Oui, bonsoir. Moi, j'avais envie de... Quand vous exposez sur le fait qu'on diffuse son identité, là, puis que ça puisse faire réagir, ça me fait penser à un truc que les Japonais ont inventé... Si je me souviens bien, c'est les Tamagotchi, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des Tamagotchi?
Qu'est-ce que je pense des Tamagotchi? Pas grand-chose. À part une histoire horrible que j'ai entendue une fois, c'était une femme qui était au volant de sa voiture. Alors une femme, désolée. Alors une personne, je ne vais pas accabler un sexe. Donc une personne qui était au volant de sa voiture et qui était... Le Tamagotchi était en train de mourir, et puis la personne a nourri le Tamagotchi, et elle a eu un accident, elle a tué quelqu'un. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, hein, mais l'idée que quelqu'un ait tué une vie réelle pour sauver une vie virtuelle me fait horreur. Donc voilà ce que le Tamagotchi m'inspire.
Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce que cette conférence s'inscrit dans le programme de réflexion, de travaux du Conseil de développement. Dis-nous-le et dis-nous aussi quelques mots sur ces actes, à moins que Christine nous fasse part de... Christine d'abord. Alors, merci beaucoup Christine, à laquelle on a rendu visite tout à l'heure avec Serge Ravet, et qui confirme, hein, c'est une belle librairie.
Hein, merci. Oui, voilà. J'ai eu la chance, grâce à Sylvain Allemand et puis à Anne Bonnefoy, grâce au partenariat régulier qu'on a ensemble, réel, pas virtuel, d'être partenaire de cet ensemble de conférences. Et je vous en remercie, je remercie l'Espace Mendès France, je remercie le Conseil de développement. C'était une chance pour la librairie. parce que c'était l'occasion d'avoir dans nos murs des intervenants de grande qualité, même si ce n'était pas très longtemps, même s'il n'y avait pas énormément de monde forcément. Il y a eu chaque fois des échanges de grande qualité, parce que les personnes qui se déplaçaient à 17h pour rencontrer ces intervenants étaient souvent très motivées, particulièrement motivées. Voilà, donc ça a été que du bonheur et que de l'enrichissement, donc merci encore. Et je pense que c'était l'occasion pour des personnes qui ne se déplacent pas dans ces soirées hein, et qui sont dans la ville, intéressées bien sûr tout autant que vous sans doute par tout ce qui se réfléchit ici, de profiter de la venue de ces intervenants de qualité. Alors la librairie est un lieu vivant, des vrais murs au cœur de la ville avec des personnes présentes physiquement, des livres qui sont des objets réels et finis dans un monde matériel. Toutes ces questions nous agitent évidemment tous, beaucoup, hein, nous posent énormément de questions. Je n'ai pas d'avis, je serais bien présomptueuse d'avoir un quelconque avis arrêté sur la question du livre numérique. Je me questionne avec toutes les personnes qui m'entourent. Pas plus tard qu'hier soir, nous avions un premier débat de toute une série intitulée « Où en sommes-nous avec le livre ?» où nous avons brassé dans le désordre toute une série de questions qui nous agitent. Est-ce que lire sur un écran, c'est la même chose que lire sur du papier ? Quels sont les enjeux qui se jouent pour la lecture ? Parce que c'est ça que ça questionne finalement. Qu'est-ce que c'est lire ? Parce qu'on a parlé, on a eu cet échange tout à l'heure avec M. Ravet dans la librairie. Contribuer et écrire la société sur le web, très bien, mais avant d'écrire, si on ne sait pas lire, on n'existe pas tout simplement. Je veux dire, on a rien à dire. Je veux dire, donc, comment continue-t-on d'apprendre à lire, où continue-t-on d'apprendre à lire, avec qui continue-t-on d'apprendre à lire? Ce sont des questions vraiment très importantes et qui sont évidemment soulevées par les nouvelles technologies qui en soi sont neutres, mais c'est à nous d'approfondir les questions que ça pose. Voilà, donc j'ai eu le très grand plaisir tout à l'heure d'être comme au cœur d'un réseau où j'ai, parce que c'est ça un libraire, hein, au milieu des livres et au milieu des lecteurs. Et de faire découvrir à M. Ravet des livres qu'il n'avait pas rencontrés jusque-là sur la question de l'identité liée au livre et à l'imaginaire. Moi, je voudrais dire quand même, j'avais envie de faire une toute petite remarque. Je vous ai entendu beaucoup parler de la question de l'identité, de l'existence de l'identité sur Internet. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me terrifie totalement.
D'accord.
Non pas que c'est... Voilà, parce que je pense que dans l'échange vivant, et Dieu sait si autour du livre, l'intimité est une chose qui compte, et la qualité de l'échange aussi, il faut vraiment laisser la place à la fluctuation, à la faiblesse, à la défaillance, à la folie, à l'imaginaire, enfin que sais-je, tout ce qui d'un jour sur l'autre va changer, qui va faire qu'on a envie d'être contacté, de pas être contacté, qu'on est d'une humeur et pas d'une autre, qu'on ait envie de lire ça et puis autre chose le lendemain. Voilà, que nous sommes ce qui est vivant ne peut pas, à un moment donné, ne peut pas tout le temps se rentrer dans des cases objectivables et dans des systèmes. Voilà. Et autour de la lecture en particulier. Je vous redis ça aujourd'hui, je vous dirai peut-être autre chose dans 2 ans. Voilà. Merci à vous.
Alors, ah oui, je suis trop loin, trop près. Après la belle aventure, c'est une autre aventure qui se termine, puisque c'est la dernière conférence ce soir de cette 4e année de cycle de conférences qui a été organisée conjointement par le Conseil de développement de Grand Poitiers et l'Espace Mendès France. Merci à l'Espace Mendès France d'avoir été fidèle sur le choix de tous nos intervenants. Je crois qu'on termine bien, on termine par on voulait des conférences qui décoiffent et qui fassent réfléchir. Je pense que ce soir on est servi servi, mais aussi très utile pour le travail qui s'annonce, parce que le groupe qui est particulièrement intéressé, qui avait été le groupe du Conseil du développement qui avait été particulièrement motivé pour programmer ces conférences cette année 2012. Un groupe qui s'appelle Cité solidaire des savoirs à l'intérieur du Conseil du développement va, je crois, prendre profit de ce que Serge nous a dit ce soir pour continuer à réfléchir sur ces échanges de savoirs que l'on essaie de promulguer, et savoir formel et savoir informel au sein de l'agglomération de Poitiers. Donc merci déjà à Serge, merci à vous tous de votre participation régulière ou plus ou moins régulière. Merci à Sylvain je pense qu'on peut l'applaudir d'ailleurs Sylvain pour son excellente animation tout au long de ces 4 ans. On va continuer sous d'autres formes, mais toute forme d'échange a un cycle, et je crois qu'il faut se renouveler et pour pas justement fatiguer ou lasser le public, il faut trouver d'autres formes d'échange, et on vous donnera rendez-vous sous d'autres formes, bien sûr, avec l'espace Mendès France dans les années à venir. Merci aussi parce que là je parle au nom de Jam Renaud, le président du Conseil du développement responsable. Il y a plusieurs membres du Conseil du développement qui sont là, donc c'est merci à Jam, et Jam vous remercie par ma voix. Merci aussi à ceux qui nous ont aidés à mettre en place très, très concrètement cette affaire, et deux personnes sont plus particulièrement à remercier. Anne qui est là et qui a été vraiment la cheville ouvrière de ces conférences, et Virginie Offroy qui n'a pas pu être là ce soir parce qu'elle a une autre conférence organisée par un autre conseil de développement à Bordeaux, avec Jam Renaud d'ailleurs, et qui a été aussi la cheville ouvrière de cette affaire, et tout ça sous la houlette avec Mendès France. Merci à Didier, merci à ton président. Et merci à Yves aussi qui est là, en tant que conseiller municipal délégué à la prospective, et pas seulement en tant que président de l'université, et qui a participé activement aussi au choix des thèmes sur ces 4 ans, et des conférenciers aussi qui nous ont agrémentés. Merci à vous de nous avoir aussi aidés à bien enregistrer ces débats. Merci à Isabelle d'être présent aussi dans l'animation jusqu'ici du groupe Cité solidaire des savoirs, qui va tirer profit de cela. J'espère, là c'est un exercice difficile parce que j'espère que j'ai oublié personne, je pense pas. Oui, moi c'est pas important. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous aurez deux traces, alors matérielles, mais aussi on essaiera du coup de dématérialiser tout ça. Une première trace qui est cet ouvrage qu'on a coproduit avec Sylvain, Virginie, Jam, et avec la participation de Mendès France. Vous en avez peut-être un ou deux autres, quelques exemplaires dans le fond pour ceux qui ne l'ont pas eu encore, qui est donc le résumé des 3 premières années, enfin le résumé, la synthèse plutôt, des 3 premières années de conférences agrémentées de quelques commentaires, et surtout, et c'est là qu'on voit que l'échange de savoir c'est utile à la vie sociale, à la vie locale. Il y a les allers-retours entre la façon dont le Conseil de développement se saisit des questions qui sont débattues dans cet ouvrage et dans ces conférences, et les conférences elles-mêmes, l'état des savoirs sur des tas de questions. Et il y aura aussi Sylvain résumera aussi et synthétisera pour début 2013 les 4 conférences de cette année qui sont particulièrement sur un thème qui nous passionne et qui est vraiment très ouvert, qui se renouvelle, on le voit bien. Merci d'avoir contribué au renouvellement de ce que l'on pouvait imaginer dans l'échange de savoir. Donc vous n'allez pas être badgé dès ce soir, mais partez tranquille. Personne n'a autorité pour délivrer aucun badge. Merci à vous tous, bon retour à la maison, et à bientôt pour d'autres occasions de débattre.